Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée jalonnée de légendes et de récits d'aventures. Le Muséum vous propose de prolonger l'exploration de l'océan avec une sélection de récits. Relation du voyage du sieur de Montauban, capitaine des flibustiers en Guinée, par Étienne Montauban.
Le capitaine Montauban est un célèbre pirate redouté le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Aucun vaisseau ne semble résister à son audace légendaire et à ses talents d'aventurier des mers. En ce mois de septembre 1695, il voit s'approcher un grand vaisseau portant pavillon anglais. Je fus ensuite vers les côtes d'Angola, qui sont par-delà la ligne à plus de 250 lieues. J'y arrivai le 22 de septembre. J'appris à 3 lieues du port de Cabinde qu'il y avait 2 vaisseaux anglais. Comme j'étais sous le vent de ce port, je courus une bordée au large, dans l'espérance que le lendemain, le vent du sud-ouest qui vient ordinairement du large me ferait gagner le port. Le jour étant venu, je vis venir à moi un vaisseau portant pavillon anglais. Je ne le crus pas d'abord vaisseau de guerre, mais quelque temps après, je découvris qu'il avait 54 pièces de canon. Je fis toutes les manœuvres imaginables pour ne le point effaroucher. Je mis pavillon hollandais pour m'approcher de lui avec plus de facilité. Lui, de son côté, faisait à peu près la même manœuvre que moi, et par des coups de canon d'assurance qu'il tirait de temps en temps, il tâchait de s'approcher de moi. Ayant reconnu son dessein, je feignis de l'attendre, ne marchant que fort lentement, pour lui faire croire que mon vaisseau était fort chargé ou que j'étais embarrassé, comme si je manquais de voile ou d'équipage. Nous allâmes de cette manière depuis le point du jour jusqu'à 10 heures avant midi. Il m'assurait de temps en temps son pavillon par des coups de canon sans balles. Mais voyant à la fin que je n'en faisais pas de même pour assurer le mien, et que nous étions déjà à la portée de l'un et de l'autre, il me tira un coup de canon à balles, ce qui m'obligea de mettre pavillon français et de lui répondre. À la vue de ce pavillon, l'anglais, sans vouloir venir dans mon travers, m'envoya 2 bordées de son canon que je reçus sans tirer un coup, quoiqu'il m'eût tué 7 hommes. J'espérais qu'étant un peu plus près de lui, je pourrais le mettre dans un état à ne pouvoir m'échapper. Je tâchais de m'approcher de lui à la portée des fusils boucaniers, et je voulais bien lui donner la hardiesse de m'aborder, ne pouvant pas moi-même l'aborder à cause que j'étais sous le vent. Enfin, m'étant peu à peu approché et l'ayant vu à la portée de mes fusillés, que j'avais tenu couché sur le ventre au-dessus du pont, je les fis lever et ils firent un si grand feu qu'ils ralentirent bientôt celui des ennemis. Cependant, comme leur équipage était de plus de 300 hommes, et qu'ils voyaient que par le feu de leurs canons, ils ne pouvaient pas venir à bout de leur entreprise, ils résolurent d'en venir à l'abordage, ce qu'ils firent avec de grands cris et des grandes menaces de ne faire aucun quartier si nous ne nous rendions. Leur grappin n'ayant pas pu prendre derrière mon navire, le leur courut d'une manière qu'il vint abattre son derrière sur mon beaupré qu'il cassa. Ce fut pour lors que, profitant de l'embarras où était sa manœuvre, mes gens ne perdirent aucun de leurs coups et firent un feu si terrible pendant une heure et demie que les ennemis, n'y pouvant résister et ayant perdu beaucoup d'hommes, abandonnèrent leurs gaillards et se retirèrent au-dessous entre les ponts. Je m'aperçus presque aussitôt qu'avec leurs chapeaux ils me faisaient signe de leur donner quartier. Je fis cesser le feu de mes gens et commandai aux Anglais de s'embarquer dans leur chaloupe pour venir se rendre à mon bord. En même temps, je faisais sauter de mes gens dans le vaisseau ennemi pour s'en saisir et empêcher toute surprise. Je me réjouissais déjà d'une prise si considérable. D'autant mieux que j'espérais qu'ayant pris ce vaisseau qui était la garde-côte d'Angola et le plus gros que les Anglais eussent dans ces mers, je me trouvais en état de faire encore de meilleures prises et d'attaquer quelque vaisseau de guerre que ce fût. Mes gens avaient aussi la même joie que moi et ils désabordaient ou sciaient les bosses avec beaucoup de plaisir. Mais le feu ayant pris tout à coup aux poudres de la Sainte-Barbe, par le moyen d'une mèche que le capitaine y avait laissée, espérant de se sauver avec les deux chaloupes, les deux vaisseaux, étant accrochés, sautèrent tous deux en l'air et firent le plus terrible bruit qu'on ait jamais ouï. Il est impossible de faire une peinture de cet affreux spectacle. Les spectateurs étant eux-mêmes les acteurs d'une si sanglante scène, ne sachant s'ils l'ont vue ou s'ils ne l'ont pas vue, et ne pouvant juger que de ce qu'ils ont ressenti eux-mêmes. C'est pourquoi, laissant au lecteur s'imaginer l'horreur que peut donner la vue de deux vaisseaux que la poudre enlève en l'air à plus de 200 toises, faisant comme une montagne d'eau, de débris de vaisseaux, de cordages, d'hommes, avec un fracas épouvantable où, parmi le bruit des canons qui tirent en l'air et des vagues qui s'élèvent, on entend des mâts et des tables qui se brisent, des voiles et des cordes qui se déchirent, des hommes qui crient, des os qui se cassent. Laissant, dis-je, au lecteur à s'imaginer tout cela, je dirai ici seulement ce qui m'arriva et par quel bonheur je me sauvai. Quand le feu prit, j'étais sur le pont de mon vaisseau au-devant où je donnais les ordres. Je fus enlevé sur une partie de ce pont si haut que ce fut, je pense, la hauteur où j'allais qui empêcha que je ne fusse mêlé dans les débris des vaisseaux où j'aurais été infailliblement moulu et réduit en 1000 pièces. Je retombai dans la mer tout étourdi, et je demeurai un assez longtemps sous l'eau sans pouvoir me remettre. À la fin, me débattant avec l'eau comme un homme qui craint de se noyer, je revins au-dessus, et je m'attrapai à une pièce de mât qui se trouvait près de moi. Je criai à quelques-uns de mes gens que je vis nager autour de moi, et les exhortai à avoir bon courage, espérant que nous nous sauverions si nous pouvions trouver quelques-unes de nos chaloupes. Mais ce qui m'affligeait encore plus que mon malheur était de voir deux demi-corps qui, ayant encore quelques restes de vie, se levaient de temps en temps sur l'eau et laissaient le lieu où ils se renfonçaient teint de leur sang. C'était aussi de voir autour de moi un nombre infini de membres et de parties séparées de leur corps et embrochées la plupart dans des éclats de bois. Un de mes gens, enfin, ayant trouvé une chaloupe entière parmi les débris qui nageaient sur l'eau, me vint dire qu'il fallait essayer d'en fermer quelques trous et de tirer le canot qui était enchâssé dedans. Nous nous rendîmes 15 ou 16 qui nous étions sauvés auprès de la chaloupe, chacun sur son morceau de bois, et prîmes tant de peine à dégager notre canot qu'à la fin, nous y réussîmes. nous montâmes tous dedans, et quand nous y fûmes, nous sauvâmes notre maître canonnier qui, dans le combat, avait eu une jambe coupée. Nous attrapâmes 3 ou 4 avirons ou morceaux de planches qui nous servirent à cet usage. Ensuite, nous cherchâmes de quoi faire une voile et un petit mât, et, après nous être accommodés de la meilleure manière qu'il nous fut possible, nous nous confiâmes à la Providence qui seule pouvait nous donner le salut et la vie.
Extrait du livre « Relations du voyage du sieur de Montauban, capitaine des flibustiers en Guinée, en l'année 1695 » par Étienne Montauban, édité en 1698 par J.L. Delorme à Amsterdam. Lecture par Paul Bouffartigue. Source gallica.bnf.fr, Bibliothèque nationale de France. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective. Avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast.